On va déguster tous les dimanches sur France Inter à partir de 11h.
Bonjour. Dans la série de nos escales culinaires de l'été, je demande la Sardaigne. Je vous propose de redécouvrir une émission que l'on consacrait à cette île de Méditerranée en juillet 2017. Bon voyage et bon appétit.
On y va pour les deux plats du jour.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
The menu, please.
Oh, tu goûtes ça.
Siamo al mercato civico di San Benedetto. Siamo davanti a un banco del pesce.
Donc nous pouvons trouver tous les poissons typiques qu'on pêche dans le sud de la Sardaigne.
La bottarga in particolare sono delle uova di cefalo.
Bottarga, la poutargue qui est une spécialité de la Sardaigne et ce sont des œufs séchés de mulet. Questa è deliziosa. Elle est délicieuse. Buonissima.
Buongiorno.
Albicocche, pesche. Fichi rossi, fichi bianchi et mandorle. Là, je vois un panier de fruits vraiment typiquement locaux, des figues qui juste me regardent et disent « mange-moi ». Des pêches, des abricots avec des taches de rousseur délicieux et surtout les cerises et une belle branche d'amandes fraîches.
Bonjour à toutes et tous, on va déguster Cela coule douce cet été et aujourd'hui on fait escale en Méditerranée sur une île entre mer et maquis, la Sardaigne. Benvenuti in Sardegna, une grande île de Méditerranée, la deuxième plus grande après la Sicile quand même, et la Sardaigne c'est près de trois fois la superficie de la Corse. Qu'est-ce qu'on mange de Olbia au nord à la capitale Cagliari au sud, en passant par les villages du centre de l'île? Eh bien, on va le voir, une diète méditerranéenne composée de fromage de brebis, de charcuterie, de pâtes, d'huile d'olive. Tout cela accompagné d'un pain très spécial qu'on va déguster. Il y a aussi des curiosités qui font un peu tourner de l'œil. On vous en dira un mot dans un instant. Je suis allé faire un petit tour en Sardaigne. J'en ai rapporté quelques impressions sonores qu'on entendra tout au long de cette émission. Et pour nous servir de guide pendant ce voyage, nous avons avec nous en plateau un jeune cuisinier. Il est d'origine sarde. Ça, on ne le sait pas forcément parce qu'il fait partie de la génération des chefs créatifs à Paris. Il est au fourneau de Tondo, rue de Côte, Paris 12e. Mais en fait, il est sarde et il connaît très très bien son île. C'est Simone Tondo. Buongiorno.
Buongiorno.
Vous allez bien, Simone?
Très bien.
Qu'est-ce que vous êtes en train de faire?
Je prépare notre petit goûter.
On appelle un spuntino, c'est ça, non?
Ouais, un spuntino.
C'est l'espèce de petit goûter. C'est en fait un énorme casse-croûte qui prend à peu près tout le plateau.
C'est 400 petites assiettes.
Il y a des fromages, des conserves, du pain. Il y en a partout. On va évidemment faire l'inventaire de vos petits trésors exclusivement en provenance de Sardaigne, évidemment. Déborah Dupont, bonjour.
Bonjour.
Comment va notre libraire gourmande?
La libraire gourmande est ensoleillée aujourd'hui.
Sunlight.
Exactement. Nous allons partir sous les sunlight de Méditerranée.
Ah. Avec un...
Il n'y a pas que Simonet, en fait, qui vient de Sardaigne. Il y a aussi un chanteur de variété française des années 60,
oui.
Dont certains auditeurs se souviennent peut-être.
Bon, et ben vous allez nous donner la solution des jeux tout à l'heure, Déborah. Antoine Gerbel, bonjour.
Bonjour.
Notre chroniqueur vin a bien travaillé, figurez-vous. Il a bu toute la Sardaigne. Et il n'en a tiré que le meilleur, qui est dans nos verres.
Je suis encore humide, je sors de la Méditerranée. J'ai traversé pour vous rejoindre. Et on va découvrir le Canoneo. C'est très beau cépage rouge, typique de la Sardaigne.
Canoneo, c'est un rapport avec notre grenache?
Eh oui, son petit frère, son grand frère.
Allez. On va voir ça avec vous. Michel Biou, Nadia Chougui, Henri Bérec, tout il est marmite dont on va déguster en régie. Djoubaka a choisi la programmation musicale. Toutes nos infos, les recettes de Simone Tondo sur la page on va déguster sur franceinter.fr. Attachez vos ceintures. Cap sur la Sardaigne.
On va déguster les saveurs de l'été.
Buongiorno. Allora, sono Corrado D'Angelo, operatore del mercato di San Benedetto Box 85. Porta avanti una tradizione di famiglia con i nostri prodotti che dal 1957 mio padre, pioniere di questo mercato, mi ha insegnato un mestiere che porta avanti con dedizione.
Allora Corrado est en train de nous décrire un petit peu son étalage de fruits et légumes et dit que déjà son père depuis 1957 était pionnier dans ce grand marché de la ville de Cagliari.
Là, il nous a fait une petite sélection de fruits exclusivement locaux. Hein.
Les cerises sont délicieuses.
Oh là là, la prune.
Ouh là là, on dirait presque de manger de la confiture.
C'est sucré.
C'est sucré.
Oui.
Ah oui, pas du tout d'acidité.
Incroyable.
Super. Petit noyau, toute petite. la figue noire. Waouh, sucrée, délicieuse.
Je peux en avoir un
bout. Bien sûr, on partage. Je garde pas tout pour moi. Buonissima.
Très juteuse.
Ah, j'adore, j'adore. Alors, je vais goûter un abricot.
Il a les joues, les taches de rousseur, hein, les joues rosées.
C'est sucré, juteux, pas du tout acide. Un côté un petit peu croquant encore. C'est juste un bonheur. Voilà. Du soleil dans la bouche.
Régime fructivore devant un étal de primeurs vraiment exceptionnel. J'étais au Mercato San Benedetto à Cagliari, chez un marchand de fruits et légumes, peut-être bien le meilleur de la ville, qui s'appelle Corrado D'Angelo. Et j'étais accompagné dans ce son par une personne que vous reconnaissez sans doute.
Je pense que c'est Alessandra.
Bravo, Alessandra Pierini, une grande amie de l'émission qui vient souvent nous parler des saveurs italiennes et qui est à la tête de l'épicerie rap Paris 9e. Simone, est-ce que vous confirmez que les fruits et légumes sont vraiment une ressource très importante en Sardaigne et qu'ils ont trouvé en Sardaigne une terre d'accueil?
Alors, ça a été quelque chose qui n'était pas forcément mis en valeur avant, parce qu'on s'est toujours concentré sur la charcuterie et sur tout ce qui venait de la montagne. Parce que les bergers, c'est les premiers habitants des Nils. C'est pas la côte, la première partie qui est habitée. C'est d'ailleurs pour ça que c'est pas le poisson la première nourriture qu'on a découvert, mais c'est la viande. C'est comment transformer les bêtes en quelque chose de possible à conserver dans le long terme et tout ça. Donc d'ici là, les jambons, les charcutes, et à suivre tout ce qui est rôti et tout ce qui est à la brosse.
Mais également les fruits et légumes.
Et les fruits et légumes, aujourd'hui, vu qu'on s'est retrouvé à avoir moins de poissons,
oui,
pour la demande énorme qu'il y a au nord d'Italie, et on s'est retrouvé à comprendre qu'on ne peut pas que manger de la viande aussi, parce qu'il y a un moment, cette chaîne va s'arrêter. On a beaucoup de terre, on a du grand soleil. De l'eau, il en manque un peu, mais on peut s'arranger avec la technologie.
Il y a tout pour faire
donc,
de beaux fruits et légumes.
Les agrumes sont dingues, comme en Sicile.
Absolument, il y a de très bons agrumes. Moi, j'ai goûté des citrons gorgés de soleil avec...
Non, il y a une grande variété. Après, le problème, c'est que par rapport à la Sicile, on a mal travaillé sur le marketing. Donc, on se retrouve à avoir un peu de gap par rapport à ce qui est les citrons de Sicile.
C'est vrai que la Sardaigne a l'air d'être un terroir un tout petit peu plus... excentré par rapport à la Sicile.
C'est sûrement un abondant moins... comme la Corse, par exemple.
Oui,
reste chez nous tranquille.
Il y a évidemment un indépendantisme, une volonté d'autonomie dans tous les sens du terme, d'ailleurs,
poétique
culturellement.
Aussi, hein, dans le sens qu'on ne fait pas des choses pour exporter en États-Unis ou en Australie. Ça n'a été jamais ça. Le pecorino est devenu connu parce qu'il est fait à Rome.
Absolument. Mais on va en parler du pecorino, évidemment, bien sûr. Vous venez d'où en Sardaigne, Simone Tondo?
Moi, je suis né à l'hôpital à Sassari, mais j'ai grandi à Macomer, qui est un petit village où tout le monde fait le militaire. C'est pour ça qu'en Italie, ils le connaissent.
Tout le monde fait le
Le service militaire.
Le service militaire à Macomer.
Oui.
D'accord.
Et j'ai fait mes études à Alghero.
D'accord.
C'est l'école hôtelière la meilleure qui est en Sardaigne.
Et on se situe où?
Alghero. Donc, c'est nord de la côte nord-ouest. C'est une ville sublime de domination espagnole. Oui, par catalan d'ailleurs.
Et vous avez encore toute votre famille?
Maman, frère,
les
amis.
Et les amis?
J'ai tout.
Oui. Et vous retournez souvent en Sardaigne?
Tous les étés.
Quels fruits et légumes vous avez hâte de déguster là?
Moi,
en août
les oranges de Muravera sont quelque chose d'assez intéressant.
Y compris l'été?
Ouais. Oui, parce que la production ça s'arrête quasiment jamais. C'est pas quelque chose qu'on mange que l'hiver.
Figues?
Figue beaucoup, abricot. Mais c'est mon grand-père qui prend les arbres à côté.
Et à moitié
c'est
sauvage.
Pas du vol, mais on se prête à des voisins.
C'est ça.
Et on a beaucoup de pêches magnifiques. San Sperate à côté Cagliari, il y a une grande production de pêche. Et ensuite, c'est plutôt tout ce qui est légumes, asperges, sauvages, fenouilles. C'est ça qui est...
D'ailleurs, tiens.
Je n'ai trouvé, heureusement.
C'est des asperges sauvages en
conserve.
On n'a
pas en France cette typologie.
Oui.
Ça pousse à peu près à 500-600 mètres au niveau de la mer.
D'accord.
Et c'est des asperges qui ont une typicité, ils sont très amers. Et là-dessus, ils ont beaucoup de goût.
Et c'est croquant.
Ont...
C'est complètement croquant. J'ai cru voir de la salicorne au départ.
Tout à fait.
Ça a d'ailleurs
la texture,
un peu
est très proche de la salicorne.
Ah, il y a une amertume.
Mais une amertume très élevée
derrière. Verdeur incroyable. Mais c'est délicieux.
C'est excellent, ouais.
Il y a surtout une texture très croquante. Comment vous apprêtez ce genre d'asperges sauvages? Alors là, c'est en conserve.
Nous, on la mange
à l'huile.
Nous, on la mange avec la fregola, d'habitude.
Et ben,
c'est un produit dont on va parler sûrement, j'imagine.
Et ben, transition toute faite, justement, vers cette fameuse fregola, puisqu'on s'engouffre dans une ruelle de la capitale, on retourne à Cagliari, et on tombe sur un petit restaurant moderne, ouvert il y a quelques semaines, Osteria Cobuta.
Allora, il nome del piatto è minestra di fregola, brodo di radici, crudo e cotto dell'orto e piccoli gnocchi di fior di ricotta mustia.
Riccardo est en train de nous préparer de la frégula sarde artisanale cuite dans un bouillon de racines avec des petits légumes du potager snackés, crus et cuits.
Et piccoli gnocchi di ricotta mustia.
Oh, et dans ce plat, donc, il y aura des petits gnocchi de ricotta. Mm. J'adore, je suis surprise par ces goûts. J'avais jamais goûté de la frégula de cette façon, mais c'est une très belle découverte.
La frégola travaillée par un jeune chef de Cagliari, Riccardo Porcedu, qui vient de s'installer, qui nous a fait donc ce minestrone de frégola. Mais alors, frégola ou frégula? Est-ce que c'est un O ou un U?
Ça dépend d'où on vient.
Oui, déjà.
Tous les mots en Sardaigne, ils changent par rapport à, au village, à la distance. De...
C'est un peu la même chose sur l'île au nord en Corse. Hein. Oui, je suis bien placé pour vous le dire. Ça les mots changent d'un village à l'autre.
La prononciation?
La prononciation, oui.
D'un petit mot, mais ça change effectivement.
Mais vous, à titre personnel, vous dites frégola ou frégula?
Moi, je dis frégola. Mais frégola. Parce que je suis né dans le 1988.
C'est ça.
Donc, on connaît la langue.
C'est ça.
Mais on la parle moins que quelqu'un qui est né avant nous, quoi.
Frégola sarda, est-ce que c'est caricatural, Simone Tondo, de définir cette fameuse pâte comme le couscous sarde?
Pas du tout.
Pour vous, c'est un couscous sarde?
C'est un couscous. Après, si on va se rechercher dans l'histoire, le couscous, sûrement... Il est arrivé à un moment qu'il est arrivé en Sardaigne. Les choses ne sont pas nées un avant l'autre.
La Sardaigne a été romaine, mais il faut préciser que la Sardaigne a été aussi occupée par les Sarrasins et les Arabes vers 710. Oui. Preuve qu'ils auraient pu apporter cette... Alors, couscous, on parle quand même de grosses billes. Ouais. J'en ai un paquet à mes côtés. Ça fait du bruit au micro. Et là, on a affaire, ça, et elles sont assez irrégulières, à des grosses billes. D'une taille de, on va dire, un demi-centimètre de diamètre. Très toastée, très brune de temps en temps, ça veut dire que c'est une pâte qui est d'abord travaillée et ensuite torréfiée.
Alors, comme le couscous, c'est une préparation à base de semoule d'habitude, mm-hmm. et d'eau.
Oui.
Donc, on mouille en fait de la semoule légèrement, d'accord. petit par petit, et on tourne.
Parce que c'est encore une pâte que font les mamas dans les familles sardes.
À la main, oui. Avant, c'était pas fait avec de la semoule de blé, parce qu'avant, on n'avait pas d'argent. Les gens ils mangeaient avec peu. Donc,
c'était fait avec quoi?
C'était fait avec du d'orge.
Orzo.
Qui coûte beaucoup moins cher.
D'accord.
Sauf que nous, dans nos têtes, tout est fait à base de blé, il faut utiliser le blé.
Absolument.
Il faut dire que l'Italie, pas que la Sardaigne, c'est le pays au monde avec la plus grande variété de blé. Je pense qu'il y en a quelque chose comme plus que 350.
Très grand patrimoine autour des céréales et du blé.
Sauf qu'on l'achète en Canada. Donc il faut changer des habitudes.
Évidemment. Alors cette frégola sarda, ce gros couscous sarde, qui quand même maintenant est travaillé par beaucoup de grands chefs dans le monde entier. La frégola sarda est arrivée il y a une quinzaine d'années dans les grands restaurants à Paris et en région, parce que c'est une pâte très intéressante avec une texture un peu souple sous la dent, qu'on peut utiliser en plus de plein de manières différentes. Les différentes façons pour travailler la frégola.
Moi, chez moi, on la mange en bouillon, avec des palourdes.
Dans votre famille? Ouais, avec des... Ah oui, alors, frégola avec palourde, ça, c'est vraiment un plat typique de Sardaigne.
C'est comme Nutella brioche, quoi.
Il est incorrigible.
C'est un bouillon ou c'est un risotto? Mais risotto, c'est arrivé après. Les risottos, ça n'existe pas en Sardaigne.
C'est le mode de préparation
un peu
moderne.
Faut commencer par ça. Les risottos, c'est quelque chose qui vient du nord. Donc, le risotto de frégola, c'est un truc que nous, cuisinés, on a un peu détourné pour faire une utilise gastronomique.
Et... La salade de frégola, telle que vous nous l'avez apportée dans Séverine, avec, j'aperçois un peu de ricotta, il y a ces fameuses asperges en conserve sauvage dont on parlait. Comment on peut faire une frégola en salade?
Moi, j'ai fait simplement, j'ai préparé hier soir, parce que ce matin, on fait le veto, donc j'ai fait chauffer de l'eau, on l'a fait cuire à 15 minutes,
oui.
l'eau bouillante salée, après on égoutte, mm-hmm. on assaisonne avec huile d'olive,
très bien.
Et ce qu'on a de bois à la table.
Et une huile d'olive sarde.
Ça, c'est très important que l'huile d'olive soit bon.
Oui, absolument.
Parce que c'est tout ce qui va assaisonner. Vu que c'est une petite bille qui est quand même enfermée, mm-hmm. l'huile, il va juste dresser cette petite pâte. Et après, on peut mettre ce qu'on veut.
Si on pourrait imaginer des petites tomates
de saison. Datterini, huile d'olive
datterini,
et un peu de basilic.
Vous évoquez une petite variété de tomates.
Des Siciles, pardon. Mais ouais. Nous, on n'a pas des tomates si bonnes.
Vous avez quand même de bonnes tomates.
Si, mais il faut être sportif. Datterini et Siciles, c'est quand même... quelque chose d'extraordinaire.
D'accord, bon.
Moi, j'adore le produit, qu'il soit français, anglais.
C'est ça. J'ai mangé les meilleurs, par parenthèse, frégula ou frégola de ma vie, sincèrement. C'était une espèce de risotto de frégola au ragoût de coq, avec des tomates du jardin, légèrement confites, du citron, des capres. Et ça, ça s'est passé à Antica di Mora del Gruccione, dans un petit village qui s'appelle Santu Lussurgiu. C'était vraiment extraordinaire, une expérience que je peux conseiller à nos auditeurs s'ils sont de passage dans ce village de Sardaigne.
C'est un lieu magnifique. Hein,
on s'est positivement régalé. Vous avez aimé ou pas la petite recette Antoine Gerbel de Simonet?
Même de non-vide. Alors on va parler beaucoup de rouge, mais c'est un plat de blanc.
C'est un plat de blanc.
C'est un plat de blanc, c'est un plat de Vermentino.
Ah, et ben écoutez, un plat de Vermentino, évidemment, on peut en parler tout à l'heure. Et puis, juste un autre petit pour clore le rayon pâte, pasta sarde. Il y a le Maloredus, qui est également un autre petit format, en un mot, c'est...
Ça, c'est chez nous. Ça, il n'y a pas de copie, il faut bien préciser. Non, c'est un petit cavatello. Voilà, si on veut trouver...
Ça nous aide pas trop.
Le cavatello, en fait, c'est une pâte, on imagine un petit rond de pâte.
C'est comme un petit gnocchi.
C'est un petit gnocchi qui est tourné sur le doigt.
Tourné sur le doigt.
C'est une petite bout de bois avec des petites lignes, on va
dire. Sauf qu'il n'y a pas de pommes de terre, évidemment. Hein, c'est juste de la semoule de blé dur.
C'est juste de la semoule. Et nous, on le mange avec des ragoûts de saucisses, à la sauce tomate. C'est un bel plat qui ont peut-être plus de goût dans la tradition sarde.
Et on dit aussi gnocchi sarde. Hein.
Gnocchi sarde, oui. En Italie, c'est gnocchetti sardi.
C'est le surnom, absolument. Dans un instant, on va évoquer bien d'autres ressources, évidemment, de Sardaigne et des recettes de notre invité Simone Tondo.
Nessuno è mai protetto dalla sua debolezza. Che se ne sta nascosta come una serpe dentro un rovo. Vilmente sconosciuta, appena sospettata, ma invece rivelata nel momento che sta a te l'oggi. Credevi di essere forte, credevi di essere saldo, ora sai chi sei, ora che sta a te l'oggi. Proprio ora che sta a te l'oggi. Le domande non ti toccano, ti piegano e ti interrogano. Tornare indietro un attimo, ma non c'è niente da rifare, solo da aspettare la prossima occasione che ancora tocchi a te l'oggi. Mancato il colpo, ma di questo non si muore. È solo che ora sai di che pasta sei l'oggi. E dentro te che sai l'oggi. Per commettere un crimine ci vuole il suo coraggio. Ma per voltar la testa basta la debolezza. Sono tutti complici e non te ne vorrebbero. Ti giustificherebbero giustificando loro. Ma è dentro te che sai come che farai, come ti comporterai quando ancora starà a te l'oggi. È meglio siano i giudici a tenerla, lasciare al mondo fuori la condanna e la soluzione. Ma farsi giudici di sé non c'è più espiazione. Fidare la tua pena, sali il tuo calvario di esule in esilio, porta sulle spalle la tua croce di Caino. Non c'è abbastanza terra più per te, terra più per te. Ora hai fatto il salto e pozzo non affondo, hai perso l'innocenza, sei uno di noi. Ora hai la conoscenza, sei uno di noi. Hai perso l'innocenza, sei uno di noi.
L'appétit vient en écoutant. On va déguster sur France Inter.
Aux premières notes de ce titre italien choisi par notre ami Giubacca, Simone Tondo a souri.
Ouais, c'est Vinicio Capossela.
Bravo. Ouais. Vous nous le présentez?
Ouais, c'est un grand parolier,
oui,
italien.
Mm-hmm.
Toi, après l'époque d'André, tout ça, c'est un fou. Il aime bien manger en plus. Moi, j'ai eu au resto, j'ai eu cette chance. Ah, pas lui. Hein.
Il est venu,
moi,
ça.
Moi, j'ai eu la chance, pas lui.
Il est venu s'attabler chez vous à Paris?
Oui, oui, avec sa copine et un mec qui faisait des peintures avec de l'encre de sèche.
Vous nous rappelez le nom de votre restaurant?
Tondo, c'est dans le 12e.
Vous ne cuisinez pas sarde là-bas?
Non, mais hier, j'ai fait de la frigoula, parce que l'autre jour, on a discuté. Et tu m'avais dit, ça sera quand même pas mal que tu fais de temps en temps des plassards. Et j'ai pris en photo, parce que je suis pas monteur. Et j'ai fait de la frégola.
Elle était apprêtée comment, votre frégola?
J'ai fait avec un purée de carottes romarin et du guanciale, avec de la roche, donc du pinard sauvage.
Cette pâte sarde de format tout petit qui ressemble presque à un gros couscous, allez déguster donc chez Tondo, le restaurant parisien de Simone Tondo. On se retrouve avec une autre ressource, un trésor sarde qu'on est allé chercher au marché San Benedetto de Cagliari.
La bottarga in particolare sono delle uova di cefalo, quindi muggine anche chiamato in lingua locale.
Là donc on est devant un étalage de moules aussi, mais beaucoup de bottarga, la poutargue qui est une spécialité de la Sardaigne, et ce sont des œufs séchés de mulet. Ça se mange de mille façons. C'est un condiment en même temps, mais aussi un aliment. Ça se mange même tout cru, juste sur un morceau de pain grillé. Ça se mange avec quelques gouttes de citron, dans des pâtes et dans des linguines, avec un filet de très bonne huile d'olive. On peut aussi les manger dans un risotto, ou enfin développer un tas de recettes assez extraordinaires.
Voilà quelle différence.
Ça, cette poutargue, on dirait carrément un morceau de charbon.
Si, questa è la bottarga come veniva conservata un tempo.
Alors, devant nous, nous avons un morceau de poutargue qui est vraiment différente de celle qu'on a l'habitude de voir. Elle est beaucoup plus foncée. On dirait un morceau de charbon, en fait, tout noir avec quelques moisissures nobles, nous dit Stefano. Et c'est de cette façon que, traditionnellement, en Sardaigne, on la mange. On en râpe juste quelques miettes et ça relève totalement un plat. Grazie. Posso assaggiare? Un pezzettino. Alors là, je suis en train de goûter une poutargue assez jeune. Le goût est prononcé, mais délicat. C'est quand même... Oui, c'est délicieuse. Il a un goût salé, mais assez agréable. Et un goût de poisson, c'est prononcé. Il y a une certaine douceur et une souplesse.
Un peu d'amertume aussi, hein.
Il a beaucoup, beaucoup de longueur en bouche. Elle est délicieuse. Buonissima.
La botarga sarda, la botarga qu'on peut traduire en français par boutargue ou poutargue d'ailleurs. Les deux sont possibles, hein, commençant par un B ou par un P. On peut définir ça comme le caviar de Méditerranée. Ce sont donc des œufs de mulet séchés au soleil. On en a d'ailleurs un exemplaire de boutargue authentiquement sarde sur notre plateau. La complexité aromatique est incroyable.
Oui. Ça dépend après de l'affinage, de comment elle est séchée.
C'est vrai, ça dépend des stades de l'affinage. Elle est plus ou moins douce, plus ou moins saline et marine.
C'est un peu le travail qu'ils ont fait sur le fromage, sur la charcuterie.
On est sur une salaison.
Ouais, donc c'est la même procédure. En fait, c'est né pour conserver les œufs. Parce que quand on vendait les mulets, on jetait les œufs.
C'est ça.
Donc on a compris un jour que peut-être on pouvait faire du fric avec les œufs. Et ils les font, parce que ça coûte pas moins que 120 euros le kilo.
C'est vrai que c'est un produit qui est assez cher.
Ça est devenu très cher. Nous, on payait beaucoup moins avant. quand c'est devenu connu, comme toutes les choses, ils ont compris que c'était quelque chose d'extrêmement de qualité.
Et c'est un produit qui est devenu à la mode.
Ouais, très à la mode.
Alors, la Sardaigne n'a pas l'apanage hein, de la production de Boutargues. On en trouve également au sud de la France, à Martigues, grande zone de production en France, également la Corse. Il y en a en Sicile, il y en a en Tunisie, il y en a un peu dans tous les pays de Méditerranée, absolument.
Israël a énormément
produit. En Espagne, absolument.
Oui, chez Kike d'Acosta, j'en ai goûté de la fraîche. C'était absolument délirant du côté de Valence, donc en Espagne.
Grand chef du côté de Valence, absolument en Espagne. Déborah
facile
Dupont.
D'emploi, c'est ça qui est bien. C'est que c'est un produit qui a énormément de goût, qui peut simplement sur des pâtes, sur du riz, enfin.
Alors,
on râpe à la maison.
Vous qui avez une femme corse, c'est plutôt comment la Boutargue à la maison?
Ben alors la Boutargue corse, avant que vous me la fassiez déguster, je ne la connaissais pas. Hein, mais je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Non, celle que je connaissais, c'est la sarde, bien évidemment. Et c'est tellement... on rentre, on est pressé, on a des bonnes pâtes.
Ah ouais. On râpe juste sur les pâtes.
On râpe juste ça et d'un seul coup, voilà, on prend un étage supérieur de n'importe quel produit de base.
Et est-ce que justement, traditionnellement dans les familles en Sardaigne, on la consomme avec des pâtes, cette Boutargue?
Oui. On a fait. Après, chacun il a son mode d'emploi.
Alors, le mode d'emploi, oui.
C'est petite bowl en inox. Et elle râpe un peu de Boutargue.
D'accord, parce que ça se râpe, hein. Ça peut se râper comme du parmesan avec une belle râpe.
Il y a deux façons. Soit on la garde en coupeau, donc au couteau.
Oui.
Ou soit on prend un microplane, on râpe maison et on fonce jusqu'à un moment qu'on a assez pour nous.
Donc,
ma mère, dans un petit bowl, en assiette à côté,
oui.
Pendant que la pâte est cuise, elle garde un peu une petite verre d'eau de cuisson.
Et oui, c'est l'eau qui contient l'amidon de la pâte.
Donc
elle
crée une petite émulsion avec la Boutargue, l'eau et un peu d'huile d'olive et des zestes de citron. Par contre, c'est pas fini là. Une fois qu'il a lié ça à la pâte hors feu, on lit les pâtes comme un risotto, on
avec
va dire.
Cette sauce, ouais.
Et à la fin, elle met une petite noix de beurre.
Non.
Ouais.
Ah, c'est très sarde, le beurre.
C'est pas du tout sarde.
Oui, on le fait.
Mais il y a des endroits où on est fond.
Très bien.
On fait au beurre aussi en Italie.
Oui.
Elle met parce qu'en fait, elle adoucit un peu cette côté d'amertume qu'il y a à la Boutargue.
C'est ça.
Ça baisse en fait le niveau d'amertume et donc ça rend un peu plus agréable.
Surtout quand on l'associe avec l'huile d'olive.
Tout à fait.
Et vous la faites de la même manière que votre maman?
J'ai pas le choix.
Ça, je m'y attendais. Donc plutôt de la Boutargue râpée, pas en copeaux dans la pâte pour la sauce soit bien enveloppante et uniformisée. Hein.
À niveau technique, je pense que c'est mieux de la râper parce que c'est plus... on la trouve dans toute la pâte, à la place que les coupeaux, quand on prend une bouchée, ça peut être déséquilibré. Je trouve que c'est mieux comme maman est fait.
C'est ça. Écoutez, linguine ou spaghetti, plutôt pâte longue. Hein,
oui, avec, linguine, c'est super.
Avec la Boutargue de Sardaigne ou d'ailleurs, mais en tout cas, c'est délicieux. C'est vraiment un plat estival. On boit quoi avec ça? Spontanément, là, comme ça, Antoine, avec des spaghettis à la Boutargue.
Oh, blanc méditerranéen, bien évidemment. Donc, on évoquait tout à l'heure le vermentino, mais ça peut être aussi un grenache blanc. Ça peut être une clairette. Vermentino, j'aime bien parce que quand on traverse, enfin, fait Corse, Sardaigne, et on retrouve sur le continent, on va vers la Botte.
Il y a comme un fil conducteur.
Ah, le fil, il est parfait. Je me souviens avoir fait un grand voyage il y a longtemps avec des Corses, d'ailleurs, pour aller à la recherche des racines du Vermentino.
Ah, et on était vous avez une vie difficile.
Non, mais
à la recherche du Vermentino, on a dit
en plus, on a fait un vrai voyage. On a pris le bateau jusqu'en Sardaigne. Après, on était reparti sur le port et on avait fait des dégustations incroyables de ce cépage. Bon, c'est vrai qu'il était mal traité parce que c'est un petit blanc, ça peut faire, c'est effectivement un petit blanc, c'est comme le melon de Bourgogne qui fait le muscadet, on peut en faire, et aujourd'hui on se rend compte que bien évidemment, quand c'est bien implanté, quand c'est bien travaillé, ça donne une grande dimension, et ça a autant de noblesse qu'un chardonnay ou qu'un sauvignon, bien évidemment.
La Sardaigne est donc une terre de vigne.
C'est une grande terre de vigne, c'est de mémoire à peu près 27 000 hectares, donc c'est une belle Bourgogne quoi, à peu près, voilà, on a à peu près une idée. Il y a un peu tout, c'est-à-dire comme tous ces grands vignobles historiques, beaucoup de choses ont été effacées dans les années 50-60, et on a replanté. Il faut savoir qu'il y a des grandes plaines, il y a des coteaux. Alors bien évidemment, un peu comme le Languedoc et un peu comme en Corse avec la plaine orientale de Corse, on a planté d'abord en bas et on a fait du gros rendement, des très grosses propriétés, des très grosses coopératives. Ça fournit énormément de vin. Vous savez, quand vous voyez du vin issu de la communauté européenne, il y a pas mal de vins qui viennent d'une époque de Sardes. Et la Sardaigne a un peu oublié ses origines. Et puis progressivement, c'est revenu avec ce cépage qui n'a jamais été vraiment oublié, qui s'appelle le Canonero.
Ah,
Le Canoneo, c'est notre grenache. Hein. Comme c'est des insulaires, bien évidemment, ils revendiquent l'origine Canoneo, mais moi je pense que...
J'ai posé la question et effectivement, des viticulteurs là-bas, des vignerons, je leur ai dit, mais ah, vous avez notre grenache. Et ils m'ont répondu, c'est vous qui nous l'avez volé. Oui, ils considèrent que le grenache est d'origine sarde.
Non, alors en fin de compte, je crois qu'on n'a pas encore d'explication, mais il serait d'origine espagnole, ça c'est quasiment certain.
Oui.
Et c'est les rois de Majorque. Faut pas oublier que les rois de Majorque étaient, ont laissé des traces très importantes en Sardaigne. Nord de la Sardaigne, il y a une, moi j'ai l'impression de me retrouver à Perpignan, dans la vieille ville de Perpignan, quand je regarde la, toute cette magnifique architecture d'exactement de la même époque, un peu flamboyante, baroque. Et on a ce grenache qui a voyagé, effectivement. Il s'est pas arrêté en Corse, on sait pas trop pourquoi. D'ailleurs, à mon avis, il devait déjà être résistant plus à l'époque. Il arrivait en Sardaigne. Et en Sardaigne, on en fait de tout, ce Canoneo. Un peu comme dans la vallée du Rhône, qui est la grande région de production chez nous. Quand vous voyez Châteauneuf-du-Pape, c'est majoritairement du grenache. Quand vous prenez un petit Côte-du-Rhône à 5-6 euros, c'est aussi majoritairement du grenache. Donc vous imaginez la palette extraordinaire qu'on peut faire. Ben, en Sardaigne, c'est la même chose. Alors là, dans nos veaux verts, je vous ai mis un vin que j'aime bien parce que le grenache, donc c'est beaucoup de soleil. Et comme souvent dans un pays de cocagne, il faut peut-être chercher le moins que le plus. Mmh. C'est-à-dire, le soleil, il est facile. La richesse, l'alcool, elle est facile. Elle tombe de partout. On va dire que donner de la puissance aux choses, c'est trop facile. Il faut aller plutôt dans la retenue, aller chercher la fraîcheur, aller chercher des coteaux un peu à l'ombre. Et puis essayer d'éviter de mettre ses vins dans du bois. Donc voilà, il faut la jouer un peu légère. Et là, j'aime beaucoup cette Tenute d'Ettori.
Ah, moi aussi, j'aime beaucoup.
C'est une grosse propriété. Donc on a à peu près à 1h30 de l'aéroport d'Olbia. Donc pour les gens qui atterrissent dans la région.
On est au nord de l'île. Hein.
On est au nord de l'île, tout à fait. C'est assez grand comme propriété. C'est un vignoble qui n'est pas palissé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fil de fer pour tenir. Tout est en gobelet à la méditerranéenne. C'est une manière, cette taille de seconde pour parler de cette taille, ça protège
gobelet,
du soleil.
Hein.
Le gobelet protège quand il y a trop de soleil, les grappes sont à l'intérieur. Et puis surtout, il y a tellement de vent sur l'île. On a cette puissance du vent. On parle souvent du soleil méditerranéen, mais c'est bien avant le soleil, il y a le vent qui est permanent. Ouais, et cette culture en gobelet protège aussi, bien évidemment, de la casse qu'amène le vent. Et cette cuvée s'appelle Touderi, c'est la première cuvée. En France, on la trouve aux alentours de 30 euros. Il faut rappeler aussi que voilà, on est sur une île. Dès que le vin est transporté, il coûte beaucoup plus cher.
Mais alors, quelle expérience, franchement.
Sur place, moi, je conseille aux gens, si vous venez en voiture en Sardaigne, bah, laissez une place pour emmener du vin, parce que vous allez faire de très belles affaires, parce que entre 7 et 12 euros, on trouve des vins extraordinaires. Excellent. Vraiment, en ce moment, je pense qu'en Europe, c'est un des meilleurs rapports qualité-prix.
Est-ce que vous avez goûté ce Touderi, hein?
Touderi, voilà.
Moi, je connais Alessandro, que c'est producteur, parce que c'est le meilleur ami de mon premier chef.
Aussi un restaurant, je crois que papa tient un restaurant sur le
domaine. Ils ont un agritourisme dans la même Tenuta, donc on peut manger chez eux.
Des chambres.
C'est son papa qui faisait ça, c'est son frère qui fait la vigne.
Alors c'est une grosse cave avec plein de petites cuves, que du béton. C'est-à-dire que les raisins tombent en gravité, et c'est vraiment biblique, et c'est travaillé. Le soufre est mis un petit peu, mais à la fin, les macérations. Et là, je trouve que c'est élégant, c'est pas
un toucher de... C'est fondu et soyeux. Il y a même des notes de maquis.
Oui, et moi je trouve que ces rouges-là, on souvent pose la question, mais est-ce qu'on peut prendre un rouge sur le poisson? Est-ce qu'on peut aller sur... Eh ben, je trouve que c'est vraiment des vins transversaux, c'est-à-dire qu'on peut vraiment faire tout un repas avec.
Dans tout,
et on peut passer sur l'iode, on peut passer sur le salé des salaisons, enfin, on peut faire énormément de choses.
Et pas lourd en bouche, même si ça titre quand même à 14,5. Hein.
Oui, ça c'est le gros problème, ça il faut le dire aussi, c'est qu'ils ont un gros problème aujourd'hui de degrés, le réchauffement climatique, tout ça fait que... Non mais les vins, aujourd'hui, le Canoneo est souvent à 15,5, et donc ils réfléchissent à une viticulture, encore une fois, tout se fera à la vigne. On réduira, non pas en mettant de l'eau dans le vin, on réduira en trouvant une viticulture qui va permettre de faire baisser un peu les degrés qui sont naturellement très hauts.
Eh bien écoutez, c'est absolument
délicieux. Et alors, je vais vous laisser parler à votre tour, François-Régis de Pouzolet, parce que c'est très intéressant, parce que c'est une grande star aussi quand même de Lille.
Oui.
Ce qui est alors beaucoup plus démonstratif.
Hein, oui.
C'est un vin, alors là, on va dire, qui est un peu plus dans l'Italie, qui veut en remontrer un peu à l'italienne, au nord de l'Italie.
C'est l'Italie qui veut faire le challenge à la France.
Ouais. On n'hésite pas à mettre de la matière dans la bouteille.
Oui, non, mais c'est l'Italie, c'est la Sardaigne qui dit à la Toscane ou au Piémont, vous voyez.
On est là, quoi.
On est là, on peut faire aussi aussi des choses assez, assez puissantes.
C'est Roberto Puzol, et que vous connaissez, un jeune vigneron trentenaire qui d'ailleurs a deux métiers. Ouais. Il est vigneron et il fait essentiellement du grenache mais également du vermentino. Et il est par ailleurs éleveur de cochons de race ancienne, c'est-à-dire vraiment de race sarde, avec du guanciale, des copas extraordinaires, des charcuteries vraiment extraordinaires. Et il est du côté de Baunei.
Baunei.
Baunei, absolument. Et c'est sur la...
C'est pas...
Plaine orientale.
Super loin, c'est pas super loin, Bagnol, d'où il était notre
copain. Très très bel endroit. Et on trouve notamment ses vins, Roberto Puzol, chez Alessandra Pierini.
Pierini, tout à fait.
Chez Rapp, très belle épicerie parisienne spécialisée dans les produits italiens.
Et on dira un dernier mot d'un vin que notre invité nous a amené, c'est la Malvasia di Bossa du célèbre Battista Colombo. Alors ça, c'est impressionnant. Ça fait un moment que j'avais pas goûté. Là, c'est un 2011 qu'il a amené. C'est une petite bouteille.
Ça, hein, c'est un vrai cadeau de
50 ans. C'est très nostalgique.
Non, mais c'est très rare. C'est vraiment un beau cadeau parce que là, c'est déjà ce grand monsieur a disparu et c'est pour moi, c'est les yeux fermés, c'est toute l'histoire méditerranéenne. J'allais pour être entouré des Grecs, des Romains, de toute cette mythologie qu'on aime quand on est enfant. Le vin nous ramène tout ça. C'est un vin au départ très sucré, potentiellement une Malvasie, et qui là est complètement épuré, très sec. On vient de la goûter tout à l'heure.
Oui, fruits secs.
J'anticipe un peu. Vous allez parler du brebis.
On se croit presque en Jura, dans le Jura d'ailleurs.
Oui, le nez est forcément. Mais ça, c'est les grands nez. Des grands vins blancs qui sont vaccinés à l'oxydation, ils partent bien évidemment un peu sur la noix, un peu sur le curry, mais après il ne faut pas s'arrêter à ça. C'est comme si on parlait de la cuisson d'une viande sans parler de la texture. C'est simplement voilà, c'est le mode d'élaboration pour que le vin résiste. Il fait très chaud, les étés sont très chauds, et voilà, il est légèrement oxydatif, et ça a une puissance extraordinaire.
Ah oui, et quelle longueur en bouche. Vous, Battista Colombo, un petit mot, hein. C'est vous qui nous avez apporté cette bouteille.
Moi, j'ai découvert ce Mondo Vino, que c'est un documentaire qui en France était plus connu qu'en Italie, je pense.
Jonathan Nociter, qui a signé ça il y a quelques années, sur le vin dans le monde.
C'est un précurseur, je pense, à niveau des com sur le Pinard. Beaucoup de gens se sont approchés au vin en France.
Il a fait un grand bien pour le vin.
Ouais. Je pense qu'il a fait bouger des choses. Aujourd'hui, on ne se souvient pas tout le temps, nous jeunes, mais moi, j'avais retenu qu'il avait fait un bon travail. Surtout, il avait trouvé M. Colombo, qui était traduit avec sous-titres. Parce qu'il parlait en sarde, lui, il parlait pas italien. Donc, c'était un petit geste. Je trouvais, mon père, il est né là-bas, et c'est des gens que je connais. Et dans le monde, ils ont fait des belles choses, donc.
Eh ben, on trinque ensemble. Vous rappelez juste les références, Antoine?
Malvasia di Bossa de Battista Colombo. Maintenant, son fils revient. Et je dirais un dernier mot sur le site de France Inter. J'ai trouvé un vin qui n'est pas encore importé, un rouge, s'appelle Naïla. C'est un franc de pied de Canoneo, toujours. Ça coûte moins de 10 euros. Je mettrai tout ça sur le site et il faut qu'un importateur s'en occupe.
Eh ben, écoutez, on va essayer de faire passer le message.
Juste un petit détail, c'est l'unique importateur en France. C'est une jeune fille qui s'appelle Claudia Gualtiero.
Oui.
Je pense que vous connaissez.
Oui.
Qui s'appelle Vini Mariani. Donc, si quelqu'un cherche à bouteille, ils vendent en particulier, donc c'est possible.
Dans les restaurants étoilés, on voit de plus en plus de vins sardes d'ailleurs.
Oui, et les très grands Italiens aujourd'hui ont leur place dans les cartes étoilées françaises.
Sébastien Lamemont, avant midi. C'est l'été sur France Inter.
Viens, mon ami, partons le cœur léger, la route est longue. Avant midi, nous devons arriver, la route est longue. Longtemps j'ai douté, longtemps je l'ai redouté, le moment est arrivé de te dire adieu, de te conduire en heure et lieu. Avançons, il ne faut pas faiblir, la route est longue. Avant midi, l'affaire sera réglée, la route est longue. Combien j'ai goûté ton amitié, jamais n'oublierai nos balades dans les fourrés. Je t'emmène faire un tour, le dernier tour des fossés. Allez, avançons, il ne faut pas traîner, la route est longue. Avant la nuit, je
je dois être rentré, la route est longue. Combien de sillons labourés, combien de saisons et combien d'acres de blé. Les années, mon vieux, ont passé, ce que la vie nous a gâtés. Donne-moi ton dernier trop, la route est longue. Avant midi, le glas devra sonner, la route est longue. Longtemps redouté, longtemps, je l'ai repoussé, le grand jour est arrivé de t'emmener faire. Le dernier tour de nos prêts.
On va déguster ce mets à l'heure d'été.
Buongiorno.
Buongiorno, salve, io sono Andrea. Lavoro qui con la bottega dei Chierchi ormai già da più di due anni. Come avete visto voi, abbiamo formaggi di piccoli caseifici.
Allora, notre ami est en train de nous décrire donc son étalage assez incroyable, où il y a surtout des fromages locaux, le fantastique pecorino, qui est le fromage à base de lait de brebis. Monsieur nous a fait une petite dégustation du plus frais, demi-affiné et un peu plus sec. Et nous, on l'accompagne avec, bien sûr, le pain typique, le pane carasau, avec lequel se mange le fromage, comme ça, un petit anca. Ça, c'est le fiore sardo.
Fiore sardo.
Fiore. C'est la fleur, en fait, parce que le lait, apparemment, s'appelle comme ça, parce qu'on utilisait la fleur de chardon pour cailler le lait. Donc c'était un cahier végétal à l'origine. Et c'est ça vraiment ce goût typique du maquis méditerranéen. On sent les champignons, le sous-bois, un peu la cave. Et on a vraiment l'impression d'être à l'intérieur d'une bergerie dans laquelle on fait le feu et dans laquelle aussi les fromages sont affinés en même temps que les autres sont préparés. Donc il y a de la fumée qui permet le séchage et qui en même temps donne du goût à la pâte. C'est superbe et c'est unique, en fait. Incroyable. Ça ne ressemble pas à notre fromage.
La Sardaigne, grand pays de fromage. Alors, comme la Sardaigne est une île, on pense souvent que les Sardes sont avant tout des pêcheurs, puisqu'ils sont évidemment entourés par la Méditerranée. Mais c'est comme les Corses, en fait, ce sont davantage des bergers.
Absolument, qu'est des bergers.
Comment vous l'expliquez, Simone Tondo?
C'est que, comme l'histoire du mulet, de les œufs, comme l'histoire de la charcute. Avant, l'inquiétude du peuple, c'était de comment passer la journée d'après. C'est pas qu'est-ce qu'on va
comment
faire.
Comment on survivait, c'est ça que
comment
vous
on va faire en août. Enfin, nous, on vit comme ça maintenant.
C'est vrai. Nos vies modernes.
C'était une nécessité de conserver le pain. Le pain carasau, il est né comme ça. La carasatura, le nom carasau, il vient de la carasatura. Donc, de rendre croustillant cette pâte. Mm-hmm. Donc, apporter ce pain à un niveau qui ne peut pas moisir.
Moisir, oui, non, c'est moisir. Sec,
ça, on peut le conserver des années.
Alors, regardez. On rompt l'hostie, c'est ça, hein? C'est alors, un pain qu'on pourrait consommer à la messe si on est catholique.
Ça me fait penser, moi aussi, aux galettes bretonnes bien crases, comme on dit dans le pays bigoudin, c'est-à-dire complètement croustillantes,
complètement
les galettes de sarrasin.
Ouais. Mais effectivement, le fait de les faire sécher, c'était tout simplement une manière de les conserver plusieurs semaines,
absolument,
voire plusieurs mois. C'était un pain, donc, pas poussé, hein.
Non,
en comme
fait,
une galette, un disque de pâte.
C'est comme une piadina.
Oui.
Donc une galette très basse, comme la galette qu'on utilise pour faire les kebabs dans les faubourgs.
Absolument. Okay. On est dans un cousinage.
C'est cuit au four à bois, c'est mieux. Four à bois, donc il y a une séparation des de deux petites feuilles de pâte.
Moi j'ai déjà vu ça, des vidéos sur internet,
c'est
effectivement, ça gonfle comme un ballon,
ouais,
en quelque sorte.
Mmh,
donc
fait.
Les deux parties de cette galette se séparent,
et après, on la
sous
sépare.
L'action du feu de bois, et ensuite on les sépare.
En fait il s'est créé, c'est comme une chambre d'air, donc
oui.
La température très haute à l'extérieur, la température un peu moins bas, et l'humidité ils séparent les deux feuilles, mm-hmm. on les sépare au couteau et après ensuite on les ressèche.
On les sèche.
C'est ça.
Donc Nina, la maman de mon mamie Andrea, qui s'appelle Columbo aussi, il les fait encore maison. Donc il fait son carasao maison qui est extraordinaire. Moi j'ai appris là-bas.
Donc c'est le pain carasao. Et c'est donc un pain totalement croustillant, il faut oublier la mie, on est vraiment Absolument. Sur une galette très croquante, qui d'ailleurs est très pratique à l'apéritif, car c'est un support idéal pour y mettre, bah justement, tiens, des fromages. Alors on va parler dans un instant la star des fromages, mais juste avant, fromage frais au menu avec Déborah Dupont.
Sur France Inter, on va déguster.
Il y en a des fromages en Sardaigne, des très secs, des fumés, des non fumés et des frais avec vous, et même du fromage en dessert, non ?
Exactement, mais cette recette peut aussi se faire avec du pecorino plus sec. Hein. Là, j'ai choisi la version un peu plus douce. Mm-hmm. Donc c'est vrai, quand on a préparé l'émission, j'ai demandé à l'invité, j'hésitais entre deux recettes à base de ricotta.
L'invité, vous voulez dire Simonet ?
C'est ça. Oui. Je lui ai posé la question et j'ai eu... Enfin, tout de suite, il m'a répondu. J'ai compris que c'était un cri du cœur quand même.
Oui, oui.
Pardoula. Donc,
pardoula. Moi, je suis perdu par contre.
Complètement perdu. Donc en fait, ce sont des petites tartelettes en forme de soleil.
Ce que vous avez apporté.
Exactement.
Quelle splendeur. D'ailleurs, on peut quand même dire qu'en coulisses, Simonet Tondo vous a félicité, car il vous a dit que ça ressemble exactement à ce qu'on trouve en Sardaigne.
Hein. Mais là, je vais le manger.
Alors maintenant, il faut les manger, parce que
le
visuel, c'est quelque chose, le goût, c'est autre chose. Donc, ce qu'il faut imaginer, c'est que ces petites tartelettes, en fait, sont traditionnellement faites à l'époque de Pâques.
D'accord.
En fait. Pourquoi ? Tout simplement parce que les bergers, à ce moment-là, faisaient du fromage frais, et c'est ce qu'expliquait Simonet tout à l'heure. Il fallait conserver aussi, donc bien évidemment, on utilise les produits.
Pour faire des pâtisseries, par exemple.
Pour faire des pâtisseries, exactement. Et donc, j'ai trouvé cette recette dans l'unique livre à ma connaissance de livres de recettes sardes en français, donc fait par Serge Cogoni.
Oui.
Donc Serge Cogoni, que je pense nous ne connaissons plus à l'heure actuelle, a été un très grand chanteur de variété avec ses deux frères Aldo et Bruno dans les années 60. Ils ont eu des multiples disques d'or, disques de platine avec leur groupe qui s'appelait les Sunlight.
Maman, tu es la plus belle du monde.
Et ben voilà, oh là là,
on
moi j'étais
en
perdu.
Arrive à nos
Je pensais à autre chose. Voilà, c'était l'allusion au Sunlight au début de cette émission. C'était une énigme que j'ai pas réussi à résoudre.
À
et c'est en fait le groupe de ce
groupe
chef.
De musique, mais aussi
Sard.
La forme de la tartelette qui représente un soleil.
Bien joué.
Eh oui, non. On réfléchit quand même, faut pas le croire. Et donc ce livre a été édité en 2010 aux éditions Presse du Midi, et c'est clairement un livre fait maison. C'est-à-dire, ne vous attendez pas à trouver du beau stylisme culinaire, des photos magnifiques et léchées. On est sur un album de famille. C'est-à-dire que la famille Cogoni est arrivée en France au début des années 50. Et là, on sent que ce sont les recettes de la mère et de la grand-mère. Vraiment. On est sur la tradition. On parlait de Frégola Sarda tout à l'heure. Il est expliqué dans ce livre comment est-ce qu'on peut la faire à la maison, les pains sardes aussi, comment est-ce qu'on peut les faire cuire au feu de bois.
Mais quand vous l'ouvrez quand même, ça fleure bon, la photo authentique, en situation, il n'y a effectivement pas de fioritures. Hein.
La photo, effectivement, assez mal cadrée, pas vraiment de styliste, souvent c'est flou, mais...
Mais on sent que les recettes sont vraies.
Les recettes sont vraies, les recettes sont absolument touchantes, parce qu'il y a les anecdotes familiales aussi, donc où il explique, on sent aussi tout le goût de l'enfant, c'est-à-dire que quand on arrive de l'Italie ensoleillée, qu'on se retrouve en France, de l'immédiat après-guerre au début des années 50, c'est quand même un petit choc culturel.
Absolument.
Et donc là, on sent que toutes ces recettes sont faites avec amour pour justement rappeler cet héritage familial. Donc pour en revenir à nos pardoulas.
Que vous avez donc fait aussi avec amour.
Avec amour et recettes, mais d'une simplicité
non,
enfantine.
Vous dites toujours ça, mais est-ce que c'est vrai ?
Là, franchement, alors, pour faire la pâte des tartelettes, vous mettez 500 g de farine T45 avec 80 g de saindoux que vous pouvez remplacer par de la végétaline si
oui.
jamais vous ne voulez pas utiliser
rappelons ce que c'est que le saindoux.
Bah, une graisse animale.
Oui, de cochon.
De cochon,
ah, bon,
donc que tout le monde n'a pas forcément envie d'utiliser.
Pays de charcuterie en Sardaigne, on l'utilise beaucoup. Mais on peut remplacer donc ce gras de porc par de la végétaline.
De la végétaline ou une graisse de l'huile de coco désodorisée. Bon, ça coûte beaucoup plus cher que la végétaline. Non, pas de beurre. Ça, on n'obtiendra pas la même texture parce que vous allez voir, il faut que la pâte soit très sèche, presque friable.
D'accord.
Donc, vous mélangez vos 500 g de farine, 80 g de saindoux, un petit verre d'eau tiède. Alors ça, c'est aussi la précision des recettes de grand-mère. Donc, j'ai testé pour vous 20 centilitres à peu près, ce sera bien. Une pincée de sel. Vous pétrissez pendant un quart d'heure, vous pouvez le faire au robot en quelques minutes. Et vous mettez de côté.
Mm-hmm.
Pendant ce temps-là, vous préparez la farce. C'est 500 g de ricotta. Avec 6 œufs. Alors, j'ai un petit peu diminué la dose de... J'en ai mis que 3, j'avoue.
Ah bon ?
300 grammes de sucre, j'ai baissé à 2 parce que 300 grammes, ça me paraissait quand même un petit peu sucré. Mais c'est les recettes de grand-mère, c'est-à-dire qu'il faut les adapter au goût du jour.
Vous savez que ça fait votre deuxième quand même, Simonet, on va se calmer sur les...
Oui, mais j'ai commencé le régime très tôt cette année, donc ça va.
Vous vous rattrapez pour l'été,
c'est très bon, Déborah.
Donc, 3 cuillères à soupe de farine,
oui.
Le zeste d'un citron,
oui.
Et une petite pincée de filament de safran. Car c'est quelque chose qui m'a étonnée, que j'ai retrouvé dans beaucoup de recettes de cet ouvrage. Le safran fait partie intégrante de la cuisine sarde, et notamment des pâtisseries.
Le safran pousse en Sardaigne.
Absolument, c'est un Gavino Montréal et c'est un des endroits en Italie plus importants pour la production des safrans avec Abruzzi. San Gavino, c'est au sud, entre Cagliari et Oristano. Donc c'est entre ça. La Boutargue, si on veut trouver des produits, entre oui. La Boutargue et les pêches.
Très bien, ben, on situe, voilà, la boussole des produits.
Donc vous mélangez tout ça pour obtenir une pâte assez lisse, et ensuite c'est tout simple.
Donc des œufs, de la ricotta,
du
citron.
Sucre, un petit peu de farine, safran,
du safran.
Citron. Voilà.
Ça me fait penser à un fiadone.
Oui, on retrouve effectivement la même base. Ensuite, vous reprenez votre première pâte, donc qui est la pâte à tarte. Vous l'étalez finement, alors soit à la machine à pâte, moi je l'ai faite tout simplement au rouleau. Vous découpez des cercles, vous mettez une bonne cuillère à soupe, on va dire, de farce à l'intérieur. Et là, vous repliez en fait les bords que vous pincez pour faire une sorte de petit panier ou de petit soleil.
D'où la forme de soleil.
D'où la forme de soleil. Alors, il faut travailler la pâte assez vite parce que ça sèche, mais ce qui n'est pas plus mal parce que ça permet ensuite de tenir à la cuisson. Donc, avec ces proportions-là, il disait pour 12 personnes, je pense que j'ai fait une trentaine de tartelettes. Tout va bien, on va pouvoir manger à France Inter toute la journée. Et ensuite, vous cuisez ça au four à feu moyen. J'ai jugé qu'un 160-180 degrés était pas mal. Une trentaine de minutes, ça dort, ça croustille.
C'est
et quand
doré.
Vous le sortez du four, vous saupoudrez de sucre glace, tout simplement. Et ça se mange tel quel.
Et qu'est-ce que c'est beau. Bravo, félicitations.
Bravo.
Vous aimez?
J'adore. Pardon, j'ai dégoûté. C'était très bon.
Vous avez, merci beaucoup Déborah, et la recette est évidemment, ainsi que les références de votre superbe livre, à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster. Simonet Tondo à la bouche pleine, pour évoquer un dernier produit, impossible de faire une émission sur la Sardaigne sans parler de ce fromage emblématique qui a même fait le voyage jusqu'à de nombreux étals de fromagers ici, sous nos latitudes, en France. C'est le Fiore Sardo. On parle d'une tome de brebis.
C'est une tome de brebis qui, moi je l'achète depuis pas longtemps chez Alessandra.
Oui.
C'est parce que un jour une fille m'a amené un morceau de Fiore Sardo.
Oui.
Et ça venait de mon village. Donc moi je suis quelqu'un qui adore les produits, je me suis senti très coupable vers moi et mon petit village d'origine.
Et vous avez dit, il y a quelque chose qui m'a échappé.
Ouais. Un grand producteur, Alessandra, je sais pas comment il a trouvé, mais c'est extraordinaire. C'est un fromage de brebis qui a différents affinages. Celle de qui je parle, par exemple, il travaille qu'entre 4 et 6 mois. La structure, elle est différente à pecorino. Le pecorino, elle est beaucoup plus
tassé.
Plus
oui.
Tassé, tout à fait. Le Fiore Sardo, c'est plutôt un fromage qu'on peut quand même râper
sous
des produits.
Oui,
et qui peut même devenir assez piquant lorsqu'il est affiné.
Absolument.
Il a une particularité quand même, c'est qu'il est affumicato. Ça veut dire qu'il a aussi...
Il y a un petit fumage derrière, en fait.
C'est... Mais en fait, il était gardé, paraît-il, dans l'endroit qui était en général le salon dans les maisons paysannes où l'on fabriquait au chaudron ce Fiore Sardo. Il était entreposé dans la salle familiale. Et du coup, le fumage était involontaire. C'est-à-dire qu'au départ, il a pris la fumée.
C'est la cheminée.
Il a pris le
chauffage. Le temps.
Absolument, le goût de la cheminée. Et là, ces notes de fumaison sont assez caractéristiques. De ce Fiore Sardo, qui est protégé, je tiens à le dire, Denominazione di origine protetta, absolument. Donc Fiore Sardo qu'on peut trouver très facilement sur nos étals. Vous disiez qu'en été, du Fiore Sardo, cette tome de brebis, en copeaux comme ça, sur une salade de tomates, ça marchait bien?
Tomates, on peut acheter les asperges, disons qu'elles sont finies, mais on peut utiliser des artichauts.
Avec la confiture d'orange.
Confiture d'orange, c'est dingue, un fromage. Je sais, c'est pas trop commun en France, mais c'est quelque chose qui est...
On le fait à la cerise.
Ça accompagne
France,
quand même. Moi, je
trouve
que c'est un truc intéressant gustativement.
Confiture de figue avec la tome de brebis en Corse également. Bah voilà, on est obligé de s'arrêter malheureusement. On va continuer après cette émission à déguster les fabuleux produits sardes que Simonet Tondo nous a apporté. Merci beaucoup pour votre participation à cette émission.
Un orgueil.
C'était superbe. Tondo, c'est votre restaurant à Paris, 29 rue de Côte, Paris 12e. Votre cuisine, c'est une cuisine créative. qui est française, italienne. C'est ça.
Du produit, après oui, il a de tout dedans, tout à fait.
Un merci tout particulier à Alexia Girkinger, qui est une jeune gastronome française amoureuse de la Sardaigne et qui m'a concocté cette visite en Sardaigne. Un merci aussi à Stefano Pibi, qui nous a servi de guide sur place en Sardaigne. C'est un gourmet et boulanger sarde qui vit à Cagliari. Merci aussi donc à Alessandra Pierini. Arrivederci.
Arrivederci, grazie.
Merci beaucoup. Merci Antoine. Merci Simone. On va déguster. C'est aussi le dimanche à 11h. Je vous propose en ce dimanche une émission sur les deux fruits cousins qu'on aime croquer pendant l'été, le melon et la pastèque.